Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas.
Bienvenue dans Les Grains de Sable, le podcast qui égrène le Sandman de Neil Gaiman. Je suis Jean Vaucat, je relis Sandman pour l'occasion et je suis accompagné de Zef qui, lui, le découvre pour ce podcast. Et ensemble, on va avancer dans l'œuvre et la retraverser en entier, ce qui va nous prendre du temps, mais aussi beaucoup de plaisir et on espère vous aussi. Donc dans ce cinquième épisode, nous sommes arrivés au numéro 8 de Sandman, paru en août 1989, écrit bien évidemment par Neil Gaiman, illustré par Mike Drigenberg, toujours accompagné de Malcolm Jones 3, et aux couleurs, on a Daniel Vozzo. Cet épisode s'appelle Le bruit de ses ailes, et c'est un épisode fondamental puisque c'est la première apparition de la mort, la sœur de Morphée. Donc après le bruit et la fureur de l'épisode précédent, où on a eu Sandman qui a récupéré son rubis dans un combat dantesque contre le Docteur D, voilà qu'on arrive dans un épisode qui est extrêmement posé et calme, et un épisode qui, l'air de rien, est un tournant dans la série, vraiment, déjà parce qu'il introduit un personnage extrêmement important, mais il introduit aussi un changement dans ce qu'était Sandman, c'est-à-dire qu'avant, il y avait encore quelque chose du comics de super-héros, certes plus horrifique, plus bizarre que les autres comics de super-héros, mais à partir de là, Gaiman va aborcer un tournant qui va l'éloigner encore plus du modèle d'origine qui était le comics de super-héros.
Ouais, on sent tout de suite que les débuts de l'épisode, d'ailleurs, on a Dream, enfin Morphée qui est vraiment pas amorphe mais triste, comme un ado qui sait plus quoi faire parce qu'il a fini son jeu vidéo et du coup il a un peu ce moment de petite mort.
Exactement.
Et en fait il y a vraiment cette double page où il explique à sa sœur ce côté de bah voilà, je m'ennuie, j'ai récupéré mes affaires, j'ai été emprisonné, je me suis vengé, je suis encore peu puissant qu'avant, mais je sais pas quoi faire. Ouais. Grosso modo, c'est un peu ce côté ado. Et j'aime beaucoup la posture que prend sa sœur pendant tout ce dialogue, enfin ce monologue, où il lui explique tout. Elle est un peu en mode « je m'en fous de ta vie, ouais. je regarde les fleurs, je donne à manger aux oiseaux, je regarde les trucs autour de moi, je m'amuse ». Et en fait, on repère tout de suite un caractère qui est antinomique avec sa fonction de mort, hein, de
personne
qui va pas apporter la mort exactement aux gens et qui va aller récupérer les âmes des gens. Et c'est assez... ça la rend vraiment très humaine dans la façon d'être. Le personnage est incroyable. Dans la série, déjà, il était assez incroyable. Et là, vraiment, il est clairement fondamental. Et je pense que ça donne un trait très particulier à cette famille
des infinis.
Des infinis. Et elle a vraiment ce truc de... on le verra plus tard, mais je l'ai trouvé ultra touchant comme personnage. Il est vraiment fort.
C'est clair. Bah, ce que je te propose, c'est qu'on rentre un petit peu dans l'épisode de manière chronologique. Donc, on retrouve Morphée, effectivement, qui est tranquille, qui donne du pain aux pigeons, tandis que dans un parc, tandis qu'il y a des jeunes qui jouent au ballon à côté de lui. Il a l'air tranquille, mais on va effectivement découvrir qu'en fait, il s'emmerde et qu'il est rongé par une angoisse existentielle, comme il va l'expliquer juste après. Et donc arrive sa sœur, la mort, qui est représentée sous l'allure d'une jeune femme gothique. Et elle s'assied à côté de lui et la première chose qu'elle dit, c'est une blague nulle issue de Mary Poppins. Et c'est la première chose qu'on apprend dans cet épisode. La mort adore Mary Poppins. Et moi, déjà, rien que ça, je trouve ça génial.
Oui, c'est assez fou. Moi, c'est un film que j'aime pas particulièrement. Donc, je trouve ça intéressant, en fait, ce côté. Je crois que ce qu'elle lui dit, c'est grosso modo, si tu veux t'emmerder, tu t'emmerderas. Ou il y a un truc comme ça de la vie est fantastique, il faut y aller, quoi. C'est un truc genre.
Non, mais c'est drôle, c'est ce contraste de enfin, Mary Poppins, c'est la joie, l'humour, c'est léger, c'est rigolo, et c'est la mort. Et elle dit, moi, j'adore Mary Poppins. Donc, je trouve que comme tu le dis, le personnage de la mort, il est présenté d'une façon qui est complètement inédite, quoi, entre son côté, son allure de jeune femme, le fait qu'elle aime Mary Poppins, le fait qu'elle soit humaine, touchante, enfin, Gaiman décide de vraiment se départir de toutes les images qu'on a pu avoir de la mort, à commencer par le Reaper, évidemment. Et donc, elle lui demande ce qui ne va pas, parce que manifestement, il va pas bien. Et donc, effectivement, il explique, comme tu as très bien dit, que maintenant qu'il s'est libéré, qu'il a retrouvé son royaume, qu'il a retrouvé ses outils, qu'il a retrouvé toute sa puissance, eh ben, il se sent vide, il se sent déçu et dépité. Et pour moi, ce que je trouve intéressant, c'est y a presque une question méta, même sur l'histoire que Gaiman est en train de raconter. C'est-à-dire, la question, c'est une fois que le héros a accompli sa quête, qu'est-ce qui se passe après, quoi ? Qu'est-ce qu'on fait maintenant, à part nourrir les pigeons, qu'est-ce qu'on peut faire, quoi ?
Moi, j'aime bien l'image qu'il donne de, au-delà du fait que ce soit des dieux, enfin, au-delà du dieu, enfin, des infinités, tout ce qu'on veut dire là-dessus, c'est ils sont irrémédiablement humains, en fait. Parce qu'ils ont ce sentiment humain d'ennui, de tristesse. On ne s'en rend pas forcément compte avant, le côté vengeance, le côté ces émotions fortes qui amènent les personnages à prendre des décisions fortes et à dérouler l'histoire narrativement. C'est assez simple. Mais quand on arrive à ce moment d'ennui, d'être perdu, c'est quasi existentiel comme question de qu'est-ce que je dois faire maintenant. En fait, j'ai pendant 200 ans j'ai été drivé par cette envie de vengeance, cette envie de me libérer, cette envie de truc, et là j'ai plus rien. En fait, c'est intéressant de se dire, c'est très humain comme sensation. On pourrait penser que les dieux n'ont pas cet ennui, n'ont pas de crise existentielle, parce qu'ils sont par définition au-dessus de l'humain, et par définition ils sont l'existence elle-même. Et donc c'est assez intéressant de se dire, ah ben en fait lui aussi il s'emmerde.
Non, il y a vraiment, pour moi il y a vraiment les deux aspects, cet aspect effectivement très humain et cette question, j'y reviens, mais effectivement cette question méta, à savoir maintenant qu'on a fait la quête classique, qu'est-ce qu'on fait. Et dans la mesure où je trouve que physiquement Morphée a quelque chose de Neil Gaiman, je sais pas si tu as vu des photos, mais voilà, il est... Donc finalement c'est lui qui se pose la question, quoi, maintenant
qu'est-ce que je dois faire de mon œuvre.
Voilà, qu'est-ce que je fais maintenant que j'ai fini le côté classique, où est-ce que je vais aller. Et donc pour moi c'est une façon de préparer le lecteur à la suite, une façon de dire maintenant qu'on a fait ce qu'on attendait de nous, on va passer à autre chose en fait. Donc il a exprimé son mal-être et elle le remet sèchement à sa place en le traitant d'imbécile égocentrique. Pire que le désir. Pire que le désir, qui est donc un des infinis, qui est là mentionné pour la première fois dans le comics. Et c'est assez drôle, elle le traite de égocentrique, le plus atterrant semblant de personnification anthropomorphique sur ce plan ou n'importe quel autre. Voilà, j'aime bien cette façon de le remettre en place. Et puis surtout, elle dit qu'elle s'inquiète pour lui. Et ça, j'ai trouvé ça touchant. Elle a une vraie inquiétude pour lui, en fait. Elle le mentionne, le fait qu'elle se fait du souci pour son bien-être. Elle ne comprend pas pourquoi il ne l'a pas appelée, etc. Et donc, elle lui propose de l'accompagner dans sa tournée. Non sans avoir d'abord fait connaissance rapidement avec un jeune homme du nom de Franklin qui joue au ballon à côté d'eux et qui tombe amoureux d'elle instantanément comme un jeune ado. Et elle lui dit, on va se revoir très bientôt. Et il est très content de ça, il devrait peut-être pas.
Ouais, tu sens le côté un peu tristesse de cet aspect-là. C'est marrant parce que du coup, on a vraiment, la façon dont elle le remet en place, c'est très très paternaliste, enfin maternel en tout cas là, pour le coup. Mais je trouve ça justement cette affectation de désir, de prononcer ce terme-là en disant c'est une des personnes de la famille. Sur le coup, je voyais pas l'importance, mais en ayant avancé dans la suite, je me suis rendu compte de l'importance de ce détail.
Bien sûr.
De le prononcer là et de dire que ça fait partie d'un tout en fait.
Oui, quand on relit le Sandman, ce qui est frappant, c'est le nombre de choses qu'il annonce à l'avance de manière
pions,
extrêmement discrète, mais parfois 10, 15, 30 épisodes à l'avance. Assez tôt, il a su où il allait, ce qui fait que dans les épisodes 10, 11, 12, il met déjà des trucs qui vont faire écho dans les épisodes 70. Quoi.
Ouais.
C'est assez incroyable. Et donc, les voilà partis pour la tournée de la mort. Ils vont donc aller chercher des gens qui s'éteignent. On va voir ce qui se passe quand elle s'approche de ces gens. D'abord, une série de cases très sympa où il déambule dans la ville, où je pense que le dessinateur a utilisé des photos de la ville qu'il a repassé en couleur. Enfin, je trouve que c'est très beau.
Ça jure un peu avec ce qu'il y a eu avant, mais c'est vraiment très... Parce qu'au début, on a un paysage très, très lumineux, avec des aplats de couleurs forts, bleus, pour montrer en fait la vie autour du parc. Et là, d'un coup, on a un truc vraiment très... très ville, très urbain, avec la pollution un peu en fond et tout. C'est vraiment, moi, le contraste, il est assez fort, je trouve.
Oui. Donc, cette tournée, on va commencer par un vieux... Oui, tu voulais dire quelque
Alors,
chose.
Alors, juste avant, je dis ça parce que c'est le titre de l'épisode est là, et c'est un truc qui va revenir de façon récurrente, oui. Mais là, quand il commence à voyager, la première phrase, c'est... alors, j'imagine qu'en français, c'est « Sans bruit, nous voyageons ». C'est « Soundless, we travel ». Et en fait, je trouve ça intéressant, ce côté... là, en fait, il voyage sans aucun bruit. Et il dit que quand il passe à côté des gens ou à côté des maisons ou là où il a la vie, tout le monde a ce frisson de comme si la mort passait pas loin d'eux, en fait, comme s'il y avait un truc un peu gênant. Il y a une expression en anglais là-dessus sur quoi, c'est une eau, enfin un canard a marché sur ma tombe ou un truc comme ça, pour oui. dire j'ai des frissons. Et en fait, c'est un peu l'idée. Et du coup, je trouvais ça intéressant, ce côté de tout le monde sans passer la mort près de soi, mais qui vient de l'expression de on n'est pas passé loin de la mort. Ouais. En fait, c'est fort.
Le premier qu'ils vont chercher, c'est un vieux musicien juif qui meurt seul dans son appartement à New York. Ouais. Tout cet épisode se passe à New York. Et donc, on voit ce qui se passe quand elle va chercher quelqu'un, avec notamment le moment précis où la personne meurt, où on entend, ce qui est le titre de l'épisode, le bruit de ses ailes. Y a une case très très belle sur fond bleu. Avec juste une immense ombre d'elle et Sandman qui se découpe devant. Et le texte dit « Elle l'attire contre elle, dans les ténèbres, j'entends battre des ailes puissantes. » Et qui sera l'élément puissant. En fait, ce que je trouve intéressant, c'est d'un côté, on nous montre la mort faire son travail, mais en même temps, il n'en retire rien du mystère. C'est-à-dire l'instant T du décès, on le voit jamais à proprement parler. On a en général ce moment avec le bruit de ses ailes.
Alors, c'est pas l'instant du décès, c'est l'instant où elle amène Sandman quelque part. Parce qu'ils sont déjà décédés, ils se voient eux-mêmes. Ils voient leur âme, j'imagine que c'est leur âme qui sort de leur corps. Et ils sont à côté du couple en disant « Ah bah putain, je me sens froid, je me sens pas bien, c'est à ça que je ressemblais » ou un truc comme ça. Il y a une prise de conscience un peu de... idiote, je vais dire. Et effectivement, après, il y a le bruit de ses ailes où tu sens qu'elle l'amène quelque part, mais tu sais pas où.
Tu sais pas où. Et effectivement, il y a cette phrase juste avant ce que je viens de citer. Je suis allé complètement dans le désordre, tant pis. effectivement, il y a un échange entre l'âme du vieux juif qui vient de décéder et la mort. Donc lui, il demande mort, et après ? Et elle répond : tu vas le découvrir, Harry. Et c'est là qu'il y a cette case énigmatique du bruit de ses ailes. Donc, on ne sait pas.
Et même son visage, là-dessus, quand elle dit ça, il y a un focus sur son visage. Je ne sais pas si c'est un peu... moi, j'y lis un peu de la tristesse de son côté à elle, dans le sens elle est triste pour la personne. Mais je ne suis même pas sûr que ce soit ça. Elle est un peu stoïque, mais j'ai l'impression de lire de la tristesse. Quoi.
Mais moi aussi. Quand elle lui dit « Tu vas le découvrir, Harry », juste avant de l'emporter dans le bruit de ses ailes, moi, je vois aussi quelque chose de triste dans son regard. La personne suivante, alors on est sur j'ai presque envie de dire de la tragicomédie.
Oui.
Puisque c'est une comique qui fait du stand-up dans un bar où ça marche pas bien, elle fait des vannes pas terribles, et finalement, au moment où elle commence à avoir quelques rires, elle meurt électrocutée par son micro, manifestement de mauvaise qualité ou mal branché, et donc elle est dégoûtée. La scène est drôle et triste en même temps.
Ouais, c'est... en fait, je viens de remarquer les rires, tu vois. C'est toi qui me l'as fait remarquer, parce que moi, je lisais juste le truc en mode, bon, ok, c'est une personne qui rate un peu son stand-up et qui a du mal à décoller quoi qu'il arrive, mais j'avais pas vu effectivement les rires de première les premiers rires qui montrent que le truc peut enfin démarrer et qu'elle meurt là. Ça, c'est vraiment triste pour le coup.
C'est vraiment triste. Et pareil, après un court échange de l'âme avec la mort, on a à nouveau une case bleue et on entend le bruit de ses ailes au moment où la mort emporte l'âme, on ne sait où. C'est toujours intéressant cet échange qu'il y a entre le mort récent et la mort. Il y a ceux qui acceptent. Le premier, le vieux monsieur, il l'accepte plutôt. La comique, au contraire, elle est folle de rage parce qu'elle dit « j'aurais pu réussir » et ça s'arrête. Donc on a un peu les différentes réactions possibles face au décès, quoi.
En fait, il y a plein de trucs qui me... Je suis désolé, il y a plein de trucs qui me touchent vachement, en fait. J'y reviendrai après, je pense, mais le personnage de la mort est vraiment incroyable. Je me retiens d'en parler maintenant.
D'accord.
Et il y a à chaque fois que Morphée, on a cette phase de bruit de ses ailes et la mort qui emmène l'âme ailleurs, il y a vraiment Morphée qui est un peu en... Je le sens timide, en fait. Il regarde ailleurs, comme s'il ne voulait pas regarder où il partait, comme s'il se passait quelque chose qu'il ne voulait pas voir ou qui était trop intime pour pouvoir le regarder. Du coup, il détourne le regard. Et il y a un côté un peu... à la fois triste et je sais pas loyal le terme qu'il faut, mais c'est celui qui me vient de respect, en fait, de ce moment-là entre la mort et l'âme. Du coup, il détourne le regard comme si c'était vraiment quelque chose d'intime et de pur, en fait.
Oui, qui doit se passer qu'entre deux, ouais. Et qu'il n'a pas, non seulement pas à intervenir, mais même pas effectivement à être là et à regarder, ouais. Quoi. Non, c'est très très fort, parce que je trouve que ça participe justement de ce truc de nous maintenir le mystère de la mort quand, oui. Même, même si, enfin voilà, on a le moment où ils meurent, ils peuvent parler avec elle, mais qu'est-ce qui se passe véritablement après, on ne sait pas. Et la mort se plaint tout au long du chemin, elle se plaint que les gens sont rarement ravis de la voir.
Oui, elle n'est pas aimée. Hein.
Ouais, qu'elle n'est pas aimée, étrangement. Qu'ils ont peur du royaume des ombres, alors qu'ils entrent chaque nuit dans le royaume de Morphée. Ouais. Ce à quoi Morphée répond, « Et je suis bien plus terrible que toi, ma sœur. »
C'est vrai.
Qui est contre-intuitif au départ. Et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'au départ, on a envie de se dire que la mort, c'est pire que le rêve. Oui. Que ce serait elle la plus puissante, la plus dangereuse. Le fait que Sandman dise, alors qu'en fait, le plus terrible, c'est moi, ça ouvre une réflexion. Ça...
Oui, parce qu'en fait, j'imagine que dans l'image qu'on a, c'est la mort est. Elle est là, quoi qu'il arrive. Tu ne peux pas y échapper quand c'est ton heure. Alors que. Elle, la façon dont elle est représentée là, elle est juste vraiment la mort, dans le sens la personne qui fait passer l'âme quelque part, en fait. C'est pas elle qui implique l'action, c'est pas à cause d'elle que ça arrive. La suite n'est pas à cause d'elle non plus. C'est, j'imagine, un bilan de la vie de la personne, parce qu'on parle quand même d'enfer et de paradis derrière. On a déjà vu l'enfer. Du coup, il y a un côté de moi, je suis juste le messager, en fait.
Oui, quelque chose de cet ordre.
C'est ce qui fait que elle, on l'aime pas, mais on dit toujours don't shoot the messenger, quoi. Je veux dire, clairement, moi je ne fais qu'apporter le message, je ne fais que passer l'âme quelque part. Et c'est dur d'être cette personne qui apporte la mauvaise nouvelle en général, et c'est ce qu'elle apporte quoi qu'il arrive.
C'est clair.
Tandis que Morphée, il a vraiment ce côté de, il peut créer le cauchemar chez les autres, il a une implication volontaire dans la vie des autres, on l'a vu, hein, il peut se permettre de tuer des gens, il peut se permettre de torturer des gens, il peut se permettre de faire ce qu'il veut, ce qui n'est a priori pas son cas à elle,
je suis d'accord.
Et c'est assez fou de cette antinomie de. Mais en fait, elle, on devrait l'aimer, en fait, parce qu'elle fait qu'apporter un message. Et quoi qu'il arrive, le message, il va être...
Il sera là de toute façon.
Il sera là, quoi. Donc, il faut quelqu'un pour le faire. Et il vaut mieux qu'elle le fasse de façon positive. Ce qu'elle fait assez bien, je trouve. Elle a ce côté, tu vois, avec le stand-up... Elle est en mode. Moi, je trouve que t'étais marrante. Tu vois, je te trouvais marrant. Ouais. Moi, tu vois, il y a un côté très réconfortant, en fait. T'inquiète pas. Même avec le suivant, qui est un des plus terribles, je pense. C'est, il y a un côté très réconfortant. On essaye d'être positif, je trouve.
Le suivant, tu parles de la mort subite du nourrisson.
Ouais.
C'est terrifiant. C'est une planche. C'est terrifiant. Elle vient. On voit une maman qui dépose un bébé dans son landau, enfin dans son berceau, et juste après la mort qui vient le prendre. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là-dessus, le gamin du coup parle.
Oui. Elle le comprend.
Donc il lui dit, et c'est tout. J'ai droit à rien de plus. Elle lui répond, non, je suis désolé.
J'ai peur que non.
Et là-dessus, le bruit de ses ailes, le retour de la maman qui découvre et qui s'effondre. Cette planche est terrifiante.
Ouais, elle est dure. Hein. Elle est vraiment dure.
Elle est vraiment dure. Mais effectivement, il y a ce côté, on retrouve ce côté, malgré tout, sympathique et apaisant d'elle, la façon dont elle prend le bébé dans ses bras, la façon dont elle dit je suis désolé qu'il n'y ait pas plus, mais oui, c'est comme ça. Et donc la tournée continue. Alors, comme toujours, hein, je me répète sans arrêt, mais comme toujours, Neil Gaiman nous décrit des destins en quelques cases, ouais, hein, que ce soit le vieux musicien, la stand-upeuse, même l'histoire avec la maman qui tient en trois cases, ça te raconte quelque chose instantanément, il y a toujours cette capacité. Et ensuite, il va continuer, la tournée continue, donc... Il y a plusieurs exemples alors sur lesquels il s'attarde pas, des gens à l'hôpital, des gens qui meurent dans la rue, des gens qui ont été assassinés et justement pour dire ce que tu disais, revenir sur le côté messager, Morphée se dit je comprends pas pourquoi en fait les humains ont peur, et il a cette phrase simple et évidente qui dit mourir est aussi naturel que naître.
Oui.
Donc, pourquoi vous avez peur ? C'est normal, en fait.
Et c'est là où il casse son côté humain dont on parlait au début, c'est qu'il a ce côté ennui, il a ce côté tous les ressentiments humains qu'on peut avoir, mais il est pas humain parce qu'il comprend pas ce que nous, on vit quand on a peur que les choses s'arrêtent. On a peur que la vie s'arrête parce qu'on a envie, enfin, par définition, on sait pas où ça va, on sait pas ce qu'il y a après, donc c'est ça qui nous fait peur. Mais c'est intéressant. Alors que lui, il sait, en fait.
Oui, et dans ce côté pas tout à fait... un peu détaché des humains, c'est attends, je sais plus quel décès c'est, mais la mort parle de quelqu'un qui va être décédé, elle dit je l'ai trouvé gentil, pas toi, et lui répond gentil, je sais pas, ça se peut, c'est toujours ce côté sur les sentiments humains, il n'est pas toujours, lui-même peut éprouver des choses très humaines, comme une angoisse existentielle quasi adolescente.
C'est sur le violoniste, juste après le violoniste.
Voilà. Donc il peut être très humain et très adolescent, mais par contre comprendre les sentiments humains, il est toujours un peu flottant là-dessus. Quoi.
Est-ce que ça veut dire qu'il se comprend pas lui-même dans ses propres sentiments ? C'est quand même fou, quoi.
C'est bien possible, c'est bien possible. Et donc au long de cette tournée, Morphée va se rappeler d'une vieille chanson qui parlait de la mort et qui, je pense, vaut la peine d'être citée en partie. La mort me fait face ce jour comme un parfum de myrrhe, comme on s'assoit sous une voile par bon vent. La mort me fait face ce jour comme le cours d'un torrent, comme un homme quitte la galère de guerre et rentre chez lui. La mort me fait face ce jour comme le foyer dont l'homme se languit après des années passées en captivité. Et Morphée de commenter, ce poète oublié comprenait ses dons, les dons de Death. Ma sœur a une fonction à remplir, comme moi, les infinis ont leurs responsabilités. J'ai des responsabilités. Ouais. Donc en fait, c'est la prise de conscience pour Morphée. C'est un peu sa révélation à l'intérieur de cet épisode qui lui redonne un peu de sens, qui est qu'il a une responsabilité. Et sa responsabilité, c'est de gérer le monde des rêves et que c'est important et que c'est fondamental. Donc voilà, il est très beau ce poème, moi j'aime beaucoup.
Ouais, j'aime beaucoup aussi. En fait, il y a une forme de la répétition, ça marche toujours aussi bien, je trouve, dans les poèmes. Quoi qu'il arrive, la répétition du même vers qui revient toujours, c'est assez fort. Hein.
Et Morphée de conclure, je marche à ses côtés, les ténèbres se lèvent de mon âme, je marche avec elle, j'entends le doux battement de ses ailes puissantes. Et donc après ce tour qui a amené une révélation à Dream, on est de retour au parc du début de l'épisode. Morphée est apaisé, il remercie sa sœur. Elle va avoir lieu comme annoncé la mort du jeune Franklin,
oui.
qui se fait renverser par une voiture et qui est tout content de retrouver cette jeune femme qu'il a croisée plus tôt dans la matinée. Et elle va lui dire, pareil, c'est entre triste et rigolo, elle va dire « Alors attends, il faut peut-être que tu vois quelque chose avant qu'on continue à discuter. » Et elle va l'emmener voir son propre corps, enfin hors champ, on va pas le voir. Et on arrive à la dernière planche avec un Morphée qui... manifestement apaisé, il a trouvé le réconfort, le fait d'avoir retrouvé une fonction le rassure et il est heureux et il jette du pain aux pigeons et il s'extasie en entendant le bruit des ailes. Moi j'ai petite... Morphée est apaisé parce qu'il a trouvé le réconfort, parce qu'avoir trouvé une fonction le rassure. Je pense que c'est une des lectures possibles de ce qu'il a apaisé, mais qu'il y en a peut-être... il y a peut-être autre chose
j'arrive pas, j'ai pas vu autre chose que juste le côté apaisé de retrouver en fait un peu un but dans sa vie, quoi.
Je pense qu'il y a autre chose, mais que c'est trop tôt pour en parler.
Ah ok, d'accord. Bah écoute, on verra alors. Du coup, pour revenir, maintenant qu'on a fini ce passage, pour revenir sur le personnage de la mort, je le trouve en fait, j'avais noté la représentation de la mort en tant que personnage dans toutes les œuvres, c'est d'une difficulté incroyable, je trouve, pour un écrivain, une écrivaine, tout type de narration. Dans les livres, dans les films, je pense naturellement à Rencontre avec Joe Black, qui est un beau film, mais qui, pour moi, en fait, perd ce côté de la mort. En fait, on perd très vite ce côté, c'est la mort qu'on a en personnage principal, parce qu'on est vite sur du côté humain, sentiment, attachement, un truc comme ça. Et en fait, je trouve que c'est extrêmement dur de faire un personnage qui prend conscience de sa fonction en tant que tel, qui arrive à faire passer cette puissance de ce moment puissant dans la vie de chaque personne de la fin de sa vie, et qui en même temps est un personnage lui-même intéressant et pas juste effacé parce que sa puissance montre qu'il devrait être effacé ou sans sentiment ou un truc comme ça. En fait, tu vois, Death dans Marvel, la compagne de Thanos, qui voudrait, c'est un personnage qui est puissant par sa présence mais qui est effacé complètement parce que pas de dialogue ou juste sa puissance montre ce qu'elle est. Dans Joe Black, voilà, on retrouve très vite ce côté humain. Il y a un moment dans le film, un truc de où il fait partir une personne et il a pas envie de le faire parce qu'il est un peu plus humain qu'avant. Et le but du film est d'essayer de comprendre le côté humain et l'attachement humain. Donc je trouve que ça tronque un peu le personnage.
Oui. Et puis très vite, en fait, dans le traitement, comme tu dis, on oublie un peu que c'est la mort et ça devient entre guillemets l'inadapté, le gars comme quelqu'un qui est pris hors de son contexte et qui doit s'adapter. Et donc là, vrai, il trouve que c'est la mort, mais ça pourrait être.
On a plus une personne qui en dehors des cases, comme on pourrait avoir une personne qui est un peu sociopathe ou un truc comme ça, et en fait on se demande, il est juste en dehors de la société dans sa façon de penser, c'est pas exactement ça en fait. Et d'ailleurs dans le film ils sont obligés de faire une pause sur le comment tu gères ton travail alors que t'es avec moi maintenant, tu vois, il y a un côté un peu métaphysique qui est un peu bizarre. Là pour le coup je trouve que ce personnage il est antinomique mais il est ultra bien fait. Parce que, au contraire, il comprend absolument tout de l'humain. En fait, c'est le personnage, par définition, qui est le plus proche de tous les humains possibles. Je pense que accompagner les gens dans leur mort au moment instantané de leur mort, c'est le moment le plus fort que tu peux vivre au-delà de ta naissance. Je veux dire, tu vois, que tu ne vis pas vraiment ou que tu ne subis. Tu subis aussi ta mort, mais tu conscientises peut-être plus ta mort. Et dans ta vie, c'est un truc que tu conscientises beaucoup. C'est un truc auquel tu vas beaucoup penser, malgré toi ou volontairement. Et du coup, ce personnage qui vient t'accompagner tous les milliards de personnes qui sont mortes dans leur vie, sur la vie de cette planète, et qui du coup peut comprendre le moindre sentiment, le moindre échec, le moindre force amicale, amoureuse, relationnelle et tout le reste. Je trouve qu'en fait c'est un personnage qui fondamentalement est le plus humain d'entre tous et là je trouve qu'il représente bien ce côté très détaché de je sais que je dois faire mon travail et je le fais avec bonheur parce que c'est un moment fort pour les gens et il faut quelqu'un qui soit comme ça avec eux, qui les accompagne, qui les rassure. C'est un personnage qui est incroyablement humain et qui s'amuse de la vie. Tu la vois au début en train de regarder des fleurs, t'as un côté très très poétique, très beau. Et autant dans la série je l'avais déjà compris, mais là vraiment voir pouvoir m'attarder sur certaines cases et tout du personnage, je trouve ça incroyable. Vraiment, c'est d'une profondeur folle, je trouve, sur quelques pages. Et du coup, y a un côté détaché du moment qui est ultra cool. Vraiment, c'est un passage incroyable.
Écoute, je suis d'accord avec toi et très content parce que pour le coup, tu t'as mis des mots sur des choses que je sentais mais que j'avais pas conscientisé. C'est-à-dire que j'étais absolument touché par ce personnage, je le trouvais absolument génial. Mais tout ce que tu viens de dire, ça m'éclaire plus le pourquoi. Je savais que je le trouvais génial, mais j'avais pas analysé comme ça. Et je trouve très très juste ce que tu dis. Et donc un personnage, une interprétation extraordinaire de ce personnage.
Ouais. Très très difficile du coup dans la série. Hein. Franchement, je re-regarderai l'épisode avec plaisir. Je suis pas sûr qu'ils aient réussi à faire matcher exactement ce qui se passe là-dedans, mais de mémoire, je me souviens d'un très bel épisode et je pense que je prendrai plaisir à le revoir. Me spoil pas, mais j'espère qu'on reverra ce personnage plus tard, pour le coup.
Je ne te spoil pas, mais donc ça veut dire qu'on continue.
Ah bah, bien sûr.
À la prochaine alors.
Fin de transmission.